Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, comme tous les samedis, on va revenir sur un événement historique majeur, en l'occurrence la chute en 1453 de la ville de Constantinople. On va aussi discuter avec Bertrand Lefebvre, un néo-calédonien qui vient de recevoir en Australie un traitement contre le cancer considéré comme révolutionnaire. Et puis pour terminer, on vous parlera de la fête de la musique qui se prépare à Manly, ce sera le 20 juin prochain. Mais revenons pour l'instant au temps présent, c'est l'heure du journal. Les principales actualités de ce samedi 29 mai 2021. Deuxième jour de confinement pour les 6,5 millions d'habitants de l'État du Victoria, où la campagne de vaccination accélère enfin. Aux États-Unis, pas d'accord entre sénateurs républicains et démocrates pour l'ouverture d'une commission d'enquête sur l'assaut du Capitole, c'était le 6 janvier dernier. Et l'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, vient tout juste de fêter son 60e anniversaire. Deuxième journée de confinement donc dans l'État du Victoria où les autorités ont détecté aujourd'hui 5 nouveaux cas de Covid, ce qui porte le nombre total de cas actifs à 45. En parallèle, plus de 20 000 doses de vaccins ont été administrées hier et plus de 56 000 tests ont été réalisés dans la journée, un record pour l'État du Victoria. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est donc que le rythme des vaccinations s'accélère enfin. C'est dû notamment au fait qu'elle est depuis hier ouverte aux personnes âgées de 40 ans et plus. Et c'est spécifiquement cette partie de la population, ceux qui sont âgés de 40 à 49 ans, qui ont répondu en masse à cet appel. Le numéro d'ailleurs à contacter pour prendre rendez-vous et se faire vacciner a même été complètement saturé hier, puisque plus de 77 000 appels ont été effectués sur une tranche d'à peine 15 minutes. D'après le médecin-chef du gouvernement, Paul Kelly, même une seule dose peut suffire à éviter de tomber malade. On l'écoute.
First doses are important. Zero doses give you no protection. One dose gives you very good protection quite quickly. So within 2 or 3 weeks, we know this from the clinical trials, we know that from the laboratory tests that have been done. Zero protection with no dose, very good protection with the first dose. And then from next week, we'll be starting to see those second doses really rolling out. And so those numbers of fully vaccinated people will rapidly rise over the coming weeks.
Oui, rappelons d'ailleurs à ce sujet que pour l'instant, à peine 500 000 personnes, soit un peu plus de 2% de la population australienne, est complètement vaccinée, et ce 3 mois après le début de la campagne de vaccination. La vaccination, c'est aussi un sujet qui préoccupe Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il appelle à l'élaboration d'un plan mondial de vaccination pour enrayer la pandémie de coronavirus. Il dénonce également l'égoïsme des pays riches qui, pour la plupart, ont désormais vacciné une large partie de leur population, alors que les pays pauvres peinent à faire de même. Il demande donc à augmenter les moyens alloués au programme COVAX.
There is anger now. I've been talking to heads of state, I've been talking to mayors, I've been talking to people in the business community, on the civil society, of African countries, of Latin American countries. There is anger. There is people do not understand. How is it possible that they are left behind when they see that in some rich countries the majority of the population is being vaccinated? And this anger can be very dangerous in relation to future international relations.
Et pendant ce temps-là, les esprits s'échauffent entre la Chine et les États-Unis à propos des origines du Covid-19. une querelle critiquée par l'OMS qui regrette qu'un sujet aussi important soit politisé. Michael Ryan, qui est le chef des services d'urgence de l'OMS, a rappelé que résoudre une telle énigme prend beaucoup de temps et nécessite également des enquêtes approfondies. Et c'est donc à partir de ce constat qu'il a critiqué les accusations récentes du président américain Joe Biden vis-à-vis de la Chine, qu'il accuse à mots couverts d'avoir laissé ce virus échapper d'un laboratoire. Des accusations qui, selon Michael Ryan, ne sont démontrées par aucune preuve.
We would though like for everyone out there to separate, if they can, the politics of this issue from the science. This whole process is being poisoned by politics. And if you expect scientists to do their work, to do that, we need space. To do that, we need governments to work together.
Et rappelons qu'en mars dernier, une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé chargée d'enquêter sur les origines du coronavirus après une visite en Chine avait conclu que l'hypothèse d'une fuite du virus depuis un laboratoire était extrêmement improbable. Direction maintenant les États-Unis où hier, les sénateurs démocrates et républicains ont échoué à se mettre d'accord sur la création d'une commission d'enquête indépendante visant à faire toute la lumière sur l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, assaut au cours duquel 4 personnes avaient perdu la vie. Seulement 6 sénateurs républicains ont voté en faveur d'une telle mesure, or il en aurait fallu au moins 10 pour que cette motion soit votée. Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate au Sénat, a dénoncé avec vigueur le résultat de ce vote.
Par peur ou par fidélité à Donald Trump, la minorité républicaine au Sénat vient d'empêcher le peuple américain d'obtenir toute la vérité sur le 6 janvier. Par ce vote, c'est officiel. Le grand mensonge de Donald Trump enveloppe complètement le Parti républicain. Le grand mensonge est maintenant le principe fondateur de ce qui a été un jour le Parti de Lincoln. Les républicains dans les deux chambres essaient de réécrire l'histoire et prétendent que le 6 janvier n'était qu'une manifestation paisible et qui a un peu dégénéré. Et ils bloquent maintenant la création d'une simple commission d'enquête indépendante et bipartisane. Nous savons tous ce qui se passe ici. Les sénateurs républicains ont choisi de défendre le grand mensonge parce qu'ils pensent que tout ce qui énerverait Donald Trump risque de leur nuire sur le plan politique. Honte au Parti républicain qui tente de glisser le 6 janvier sous le tapis parce qu'il a peur de Donald Trump. Notre démocratie a longtemps perduré parce que des responsables de bonne foi, même s'ils étaient en désaccord, même si cela avait un prix politique, partageaient la même fidélité à la vérité. Cela n'est plus le cas aujourd'hui.
Shared a fidelity to the truth. Not so today.
Alors, il y en a deux, en revanche, qui visiblement s'entendent à merveille. C'est le président biélorusse Alexandre Loukachenko et son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont rencontrés hier dans la ville de Sotchi, alors qu'Alexandre Loukachenko est presque unanimement critiqué par la communauté internationale pour avoir fait détourner la semaine dernière un vol commercial à bord duquel se trouvait l'un de ses principaux opposants. Mais Vladimir Poutine, pour qui la Biélorussie constitue le dernier tampon vis-à-vis des pays membres de l'alliance militaire de l'OTAN, lui a apporté son soutien total. On fait le point sur le sujet avec le correspondant de RFI à Moscou, Daniel Valo.
Vladimir Poutine est tout sourire aux côtés de son homologue biélorusse. Je suis content de vous voir, dit-il. Nous pourrons d'ailleurs nous baigner car la mer est de plus en plus chaude et je suis sûr que cela contribuera au résultat de notre rencontre. Alexandre Loukachenko semble également ravi et montre à son interlocuteur une mallette noire où se trouvent, dit-il, des documents prouvant sa bonne foi dans l'affaire du vol Ryanair. Je vais vous montrer certains documents et vous allez comprendre ce qui s'est passé et ce qui se trame. Il y a une tentative de déstabilisation de notre pays, comme en août dernier. Nous savons ce que nos amis occidentaux attendent de nous. À quoi bon discuter ? Vladimir Poutine ne ménage pas son soutien, mais attention, ce soutien aura un prix. Le président russe l'a évoqué, il souhaite avancer sur le projet d'union entre son pays et celui d'Alexandre Loukachenko.
Nous le faisons pas à pas, en tenant compte des intérêts de la Biélorussie et de la Russie. Nous avançons lentement, mais sûrement dans cette direction.
Cette intégration économique et même politique voulue par la Russie depuis des années a toujours suscité la réticence du président biélorusse. Poussé dans ses retranchements, Alexandre Loukachenko risque pourtant désormais de devoir accepter les conditions dictées par Vladimir Poutine. Ce bain de mer à Sotchi pourrait donc coûter très cher au président biélorusse. Daniel Valo, Moscou RFI.
Dans le reste de l'actualité internationale, sauf qui peut, général, dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, hier, des centaines de milliers de personnes ont commencé à quitter la ville alors que le volcan Nyiragongo, qui se trouve à proximité, est entré en éruption il y a quelques jours. Les routes autour de la ville sont actuellement complètement bouchées car empruntées par des milliers de personnes qui quittent la ville à pied. De leur côté, les organisations humanitaires qui se trouvent sur place se mobilisent pour prendre en charge ces personnes désormais sans domicile pour leur apporter ce dont ils ont le plus besoin, les besoins essentiels tels que l'accès à l'eau, à la nourriture mais aussi à des toilettes. En parlant d'organisations humanitaires, l'une des plus célèbres d'entre elles, Amnesty International, a fêté hier ses 60 ans, une période au cours de laquelle l'ONG a remporté plusieurs succès, comme par exemple la signature de la Convention contre la torture, le traité sur le commerce des armes ou encore la libération au cours de ces nombreuses années de dizaines de prisonniers arrêtés pour des délits d'opinion. Mais la période actuelle reste très incertaine et de nombreux défis restent à relever. C'est ce qu'explique Cécile Coudroux, présidente d'Amnesty International France, a expliqué à nos confrères de RFI.
Il y a plusieurs urgences. La première urgence, c'est de ne pas revenir en arrière, car certaines avancées, parfois, peuvent être suivies de recul. Par exemple, dans la liberté d'expression et de manifestation, on doit lutter contre une dérive autoritaire dans bien des régions du monde. Et puis, par ailleurs, il y a aussi de nouveaux enjeux, tels que, parfois, l'impact des technologies numériques sur les droits humains, ou encore, bien sûr, l'urgence climatique. Et enfin, avec la pandémie récemment, nous avons pu voir à quel point les droits économiques, sociaux et culturels, les DESC, comme on les appelle, doivent être aussi protégés, car il y a beaucoup d'inégalités qui empêchent cet accès aux droits humains. Aujourd'hui, on pourrait craindre que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne soit même plus adoptée. Malgré les avancées, on peut dire que les droits humains sont davantage menacés par bien des dirigeants qui cherchent à détourner parfois les citoyens de ces valeurs universelles. Et c'est pourquoi notre mouvement est toujours aussi important pour porter ces valeurs, pour défendre l'universalisme et pour montrer que tous les citoyens du monde devraient avoir les mêmes droits. Mais ça n'est plus forcément tenu pour acquis aujourd'hui.
Un mot maintenant sur le Japon où vient d'être prolongé l'état d'urgence pour 3 semaines de plus en raison de l'apparition de nouvelles infections au coronavirus et ce alors que les Jeux Olympiques de Tokyo doivent démarrer dans tout pile 50 jours. Malgré l'opposition à l'organisation de ces Jeux d'une très large majorité de Japonais, le président nippon Yoshihide Suga s'est voulu rassurant. Il a promis que les Jeux pourront avoir lieu et que des mesures fortes seront mises en place pour contenir une éventuelle propagation du virus. On l'écoute.
The next 3 weeks are an extremely important period in achieving results of infection prevention and vaccine inoculation, a two-sided strategy. To hold the Olympics, the IOC, IPC and Tokyo will continue to proceed with adjustments and as a country, we will fully cooperate to protect people's lives.
Un mot maintenant s'adressant particulièrement à la communauté française en Australie, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Fidji, puisque demain, ce sera le jour de l'élection des conseillers consulaires, ces représentants de la communauté française dans ces 3 pays. En fait, le vote a commencé sur Internet il y a quelques jours, c'était le 21 mai jusqu'au 26 mai. Demain, c'est donc le jour pour le vote physique dans l'urne. On trouve 7 lieux pour voter en Australie, 1 à Fidji et 1 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, pour terminer, on va dire un mot sur la météo de ce samedi en Australie. Des averses aujourd'hui à Perth où il fait 21 degrés, 18 degrés à Adélaïde, le temps est couvert sur place, la grisaille aussi à Melbourne avec seulement 14 degrés. C'est légèrement mieux à Sydney même si des risques d'averses ne sont pas écartés, il fait 17 degrés aujourd'hui ici, 21 degrés à Brisbane, 26 degrés à Cairns et enfin 32 degrés à Darwin où pour le coup le soleil est en rendez-vous aujourd'hui. Magazine des sports, bienvenue dans cette nouvelle édition du samedi 29 mai 2021. Aujourd'hui, on est à la veille de deux grands rendez-vous sportifs, puisque demain commence à Paris le tournoi de Roland-Garros. Et c'est aussi ce dimanche que se joue la finale de la Ligue des Champions. Une finale qui se jouera à Porto, au Portugal, et où ont déjà commencé à se rassembler les supporters de Chelsea et Manchester City. 16 500 d'entre eux pourront assister à la finale dans le stade dont la capacité a été réduite à un tiers. Une finale 100% anglaise donc, c'est la troisième fois dans l'histoire de la compétition que ça arrive. La première fois c'était en 2008, Manchester United s'était imposé déjà face à Chelsea, puis la deuxième c'était en 2019, année du sacre de Liverpool face à Tottenham. Cette finale, c'est aussi un affrontement entre deux entraîneurs très renommés. Pour Chelsea, Thomas Tuchel, qui était déjà arrivé en finale l'an dernier avec le PSG. Une finale perdue face au Bayern et à la suite de laquelle il avait été remercié. Et puis pour les Citizens, c'est bien sûr Pep Guardiola qui, avec Barcelone, a déjà remporté plusieurs fois cette compétition. Du coup, on serait tenté de penser qu'il a un léger avantage. Pourtant, le Catalan se méfie beaucoup du club londonien. Écoutez-le.
Chelsea a posé des problèmes à toutes les équipes. Nous devrons leur en poser aussi. C'est une équipe difficile à manœuvrer avec la qualité qu'ils ont. C'est une formation qui joue vraiment sur toute la largeur et dans la profondeur. Les joueurs sont toujours très proches les uns des autres.
Et on continue à parler de football. En Europe, la saison est terminée un peu partout dans les championnats nationaux. C'est donc le début de la valse des entraîneurs. En France, par exemple, Christophe Galtier, qui vient de remporter le championnat de Ligue 1 avec Lille, est ainsi donné partant pour Nice. Et de l'autre côté des Alpes, en Italie, la légende du football, Andrea Pirlo, va lui quitter son poste d'entraîneur à la Juventus de Turin au bout d'à peine une saison. Une saison au bilan plutôt décevant. On fait le point avec Christophe Jousset de RFI.
On peut avoir été un très grand joueur et rater son entrée dans la carrière d'entraîneur. Andrea Pirlo, milieu de terrain à la classe folle, 6 fois champion d'Italie avec le Milan AC et la Juventus de Turin, 2 fois champion d'Europe avec le Milan, champion du monde avec l'équipe d'Italie en 2006, pour ne parler que des principales lignes de son palmarès. Andrea Pirlo aura fait des débuts moyens à la tête d'un club de l'élite. Il y a bien eu la victoire en Coupe d'Italie, il y a eu aussi cette qualification à la prochaine Ligue des Champions, in extremis, mais ça ne suffit pas. Le titre de champion d'Italie est revenu à l'Inter Milan, fin de série pour les Bianconeri qui restaient sur 9 sacres consécutifs. La Juve a aussi été sortie trop tôt, dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Invité récemment à noter sa saison, Pirlo s'était mis 6 sur 10. Ses dirigeants n'ont pas donné leur note à eux, mais de toute évidence, elle est éliminatoire. La consolation peut-être est dans le communiqué. Le club remercie son entraîneur du fond du cœur. La Juve n'oublie pas sans doute qu'au début de sa carrière de joueur, Andrea Pirlo était peu performant sur les coups francs avant de devenir un maître en la matière. Il n'a que 42 ans, on le reverra sur le banc d'une équipe prestigieuse.
Et je vous le disais donc en introduction, demain c'est aussi le début du tournoi de Roland-Garros. Et à la surprise générale, l'une des stars actuelles des courts de tennis, la japonaise Naomi Osaka, a annoncé qu'elle allait boycotter la presse pendant toute la durée du tournoi. Une décision qu'elle a justifiée en disant vouloir protéger sa santé mentale, sauf que voilà, cette décision, elle passe mal. Elle est critiquée y compris par d'autres joueuses, c'est par exemple le cas de la française Alizé Cornet. Elle a expliqué pourquoi à nos confrères de RFI.
Depuis la nuit des temps, tous les joueurs se sont toujours soumis, entre guillemets soumis, parce que j'imagine que c'est pas toujours un plaisir, mais à ce rendez-vous avec les journalistes, c'est aussi à elle de se blinder contre ça, de faire la part des choses, même si elle fait des conférences de presse écourtées. Je pense pas que couper la communication avec les journalistes soit vraiment une bonne solution. Après, je sais pas les problèmes psychologiques qu'elle a, et si ça lui pèse vraiment, c'est pas non plus sain, donc j'ai pas toutes les cartes en main pour juger la situation, mais je ne peux qu'à peine imaginer les sollicitations qu'elle doit avoir, ça doit être monstrueux. C'était quand même l'athlète féminine la mieux payée l'année dernière. Elle doit avoir des contrats de ouf et ça doit être beaucoup de sollicitations, beaucoup de fatigue. Donc, tu peux imaginer que ça doit peser parfois.
Voilà, le magazine des sports, c'est fini pour aujourd'hui. Une nouvelle édition est prévue dès demain. Vous retrouverez à cette occasion l'excellent Jean-Noël Ducasse. Et vous êtes sur SBS, le programme en français. Il est 13h25. On vient d'écouter El Bad Boy, un morceau du groupe parisien Setenta. C'est maintenant l'heure de retrouver notre rendez-vous du samedi, la rétrospective, au cours de laquelle on revient sur un événement historique majeur. Et aujourd'hui, on fait un saut dans le passé de plus de 500 ans, retour en 1453 pour parler de la chute de Constantinople, qui marque également la fin de l'Empire byzantin.
Dans la fabrique de l'histoire, aujourd'hui, la chute de Constantinople en 1453. Nous allons ce matin nous arrêter sur la chute de Constantinople ou sur la conquête d'Istanbul, selon que l'on se place d'un côté ou de l'autre des belligérants.
Je viens de la malédiction, du cœur des ténèbres. Je porte des messages de malheur, amers et douloureux pour les chrétiens. Quand les Turcs sont venus, ils ont pris la ville et massacré les chrétiens. Là, et de toutes parts.
. 1453, la chute de Constantinople. En 1453, la ville de Constantinople, officiellement rebaptisée Istanbul au XXe siècle, est conquise par le sultan Mehmed II. C'en est fini de l'Empire chrétien d'Orient. Constantinople sera désormais le fleuron d'un empire musulman. Depuis quatre siècles, les églises d'Orient et d'Occident se sont éloignées. Les controverses théologiques et les conflits d'autorité ont eu raison de l'unité chrétienne. En 1453, à Constantinople, on trouve des chrétiens de tradition orientale, des latins venus majoritairement d'Italie et reconnaissant l'autorité du pape et de Rome, mais on y trouve aussi des juifs, des musulmans, des grecs, des slaves, des turcs, une société profondément cosmopolite installé entre la mer Noire et la mer Égée. 1453 trône au rang de mythe dans la culture catholique, une des dates importantes de la chronologie historique scolaire. Elle rappelle l'existence de Byzance, empire oublié, au temps où la chrétienté bicéphale se partageait de part et d'autre de la Méditerranée, entre Rome et Constantinople.
1453, prise de Constantinople par les Turcs. C'est une date que connaissent tous les bacheliers. Ce qu'on enseigne à nos collégiens du passé de Constantinople se réduit à peu près à cet unique événement. Absorbés par le souci de leur faire connaître le passé de leur propre pays, nos professeurs n'ont guère le loisir de les faire réfléchir à ce qui, dans les siècles lointains, se passait dans ces régions excentriques où s'élève Constantinople, sur les bords du détroit du Bosphore, aux confins de l'Europe et de l'Asie. Et pourtant, l'histoire de Constantinople est riche d'enseignements d'une portée particulièrement haute à une époque comme la nôtre, où la question des rapports entre l'Orient et l'Occident, entre ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation occidentale et la civilisation orientale, soulève tant de discussions. En effet, avant de s'écrouler en 1453, Constantinople, on l'oublie trop, avait été pendant plus de 1000 ans la capitale riche et somptueuse d'un grand empire, celui que l'histoire appelle l'Empire byzantin, qui, pendant des siècles, fut le principal foyer où fut conservé l'héritage des grandeurs civilisatrices de la Rome antique.
Nous ne devons pas perdre de vue toutes les possibilités qui existent. Nous ne pouvons pas abandonner Constantinople aux mains des infidèles.
Notre Seigneur le Pape doit tenter quelque chose. Si nous arrivions à constituer une puissante armée de croisés...
Les Français et les Anglais sont en guerre depuis des années. Leurs troupes sont dévastées. L'empereur allemand, quant à lui, est occupé par des conflits de succession.
Mais le pape pourrait solliciter les Vénitiens et les Génois et leur demander leur appui.
Avez-vous oublié ce qu'ils nous ont fait endurer dans le passé? Ils ont causé plus de tort à notre religion que personne d'autre.
Mehmet va lancer son offensive, c'est une question de jour. Nous n'avons pas de temps à perdre, grand-duc Notaras.
Je vous en conjure, monseigneur. Vous mettriez notre église à la botte du pape avec une telle décision. Ce serait tirer un trait sur notre religion. Je préfère encore voir des turbans turcs dans la cité plutôt que des mitres de cardinaux.
Nous ne voulons pas de catholiques infidèles dans la basilique Sainte-Sophie. Il n'est pas question que nous fassions don de notre religion au pape.
Nous ne prierons pas dans les mêmes églises que les latins.
Doukas, historien byzantin.
Sur terre, le sultan fit amener le fameux grand canon et l'installa face au rempart près de la porte Saint-Romain. Les Turcs, peu à peu, approchèrent des murailles à l'abri de leurs boucliers et placèrent leurs échelles. Mais ils n'arrivaient à rien car d'en haut, les défenseurs les en empêchaient en leur jetant des pierres. Alors donc qu'ils étaient arrêtés par cet obstacle, tous les Romains, avec l'empereur, faisaient face à l'ennemi avec pour seul but de toute leur force d'empêcher les Turcs de pénétrer par les remparts écroulés. On put voir alors un spectacle à faire frémir. Parmi les Romains et les Latins qui empêchaient qu'on appuie les échelles au rempart, les uns furent taillés en pièces par ces hommes, tandis que les autres, les yeux fermés, se précipitaient au bas du mur et le corps fracassé achevait ainsi leur vie d'une façon horrible.
Tursun Bey, historien ottoman.
Au matin, quand le sang eut coulé dans la plaine du crépuscule à la suite du combat, le padishah enfourcha le cheval de la victoire. La bonne fortune devant lui et dans son dos la félicité, à sa droite l'aide divine et à sa gauche la combativité. Il s'approcha de la forteresse, fit jouer les tambours qui ornent la victoire et ordonna « Par la grâce de Dieu qu'il soit exalté, pillage, Dieu est le plus grand !» Avant que les mécréants étourdis se fussent remis du choc des boulets, le signal du combat fut donné de tous côtés.
En tout cas, l'Empire ottoman va s'imposer comme une puissance militaire considérable, avec qui il faut compter, tout à fait impressionnante par la force de son artillerie, la discipline de ses troupes. Sur mer, ils sont moins compétents, mais enfin bon, en réalité, avant 1918, on n'a pas repris Constantinople.
La chute de Constantinople, 1453.
Constantinople, capitale religieuse du monde byzantin, vient de tomber aux mains des Turcs.
Monsieur Bernard Lefebvre, vous êtes un policier en retraite de Nouvelle-Calédonie et vous venez de bénéficier d'un traitement révolutionnaire contre le cancer à l'hôpital Saint-Vincent de Sydney. Un traitement qui, vous dites, vous a sauvé la vie. Et ce traitement fait partie d'une recherche clinique. Vous êtes une des 56 personnes seulement à avoir subi ce traitement. Et comment vous êtes-vous retrouvé dans le cadre de cet essai clinique ?
Par l'intermédiaire du docteur, du professeur Emmett de l'hôpital de Saint-Vincent Hospital, j'ai pu bénéficier d'un nouveau procédé pour traiter le cancer métastasé de la prostate. Ça s'appelle l'utétium 177.
Oui.
C'est une injection de produits radioactifs avec très peu d'effets secondaires et qui agit uniquement sur les métastases.
Quand vous avez commencé le traitement, à quel niveau est-ce que vous étiez ? Parce que si on commence très tôt, pour certains traitements, ça marche très bien. Dans d'autres cas, quand on s'y prend trop tard, évidemment, c'est tard. Mais parlez-nous de votre situation. Comment est-ce que où vous en étiez d'abord et comment vous avez appris de l'existence de ce traitement ?
En 2015, j'ai des problèmes urinaires.
Oui.
Je vais chez mon docteur qui me prescrit une prise de sang avec une analyse du PSA. Le résultat de cette analyse est très très mauvaise, mon PSA est très haut et tout de suite, sans perdre de temps, on commence par une chimiothérapie, tout de suite. Mon PSA étant très élevé, on n'a plus de temps à perdre, à faire...
Est-ce que je peux vous interrompre parce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le PSA ?
Le PSA... c'est le moyen de contrôler l'état de votre prostate. Vous savez, chaque prise de sang a une référence dans laquelle il ne faut pas dépasser. C'est pareil pour le cholestérol, c'est pareil pour le diabète, c'est pareil pour un certain nombre de pathologies.
Oui, oui, oui. Oui.
Et donc, c'est une graduation qu'il y a pour contrôler l'état de votre prostate. Si vous dépassez cette graduation, c'est qu'il y a un problème. Donc on fait tout de suite une recherche pour savoir ce qu'il se passe. Donc moi, on m'a fait une biopsie sur la prostate et on a remarqué que j'avais 6 prélèvements sur la prostate à gauche qui étaient cancéreux.
Et le taux normal, pour nous donner une indication de PSA...
Le taux normal, il ne faut pas dépasser l'indice 4. Quand on commence à dépasser l'indice 4, c'est qu'il faut commencer à faire une recherche pour savoir ce qu'il y a. Et plus l'indice va monter, plus vous risquez d'avoir des métastases. En fonction du résultat de l'indice, les soins sont différents.
Oui.
Vous pouvez avoir la curithérapie, vous pouvez avoir l'hormonothérapie, vous pouvez avoir l'ablation de la prostate, vous pouvez avoir différentes interventions avant d'arriver à de la chimiothérapie.
Oui. Et c'est où que ce constat a été fait? C'était parce que vous êtes de Nouvelle-Calédonie.
Oui, ça a été fait à Nouméa. Oui. Tout de suite, on a décidé, l'oncologue, avec l'oncologue et mon médecin urologue, ils ont décidé d'attaquer la chimiothérapie en 2015 avec de l'hormonothérapie, les deux en même temps, chimio et hormonothérapie en même temps. Ensuite, en janvier 2016, je suis déjà venu à Sydney pour faire de la radiothérapie, parce qu'à Nouméa, on n'avait pas de centre de radiothérapie. Donc, je suis venu à Sydney de janvier, février et mars, 42 séances, toujours au Saint-Vincent Hospital.
Comment est-ce que la décision a été prise de commencer ce traitement révolutionnaire?
En 2019, mon taux de PSA redémarre, remonte.
Oui.
Donc, on cherche ce qu'il se passe. On sait que le cancer redémarre, mais on ne sait pas où exactement. Et à Sydney, vous avez ce que l'on appelle un appareil de radio qui s'appelle le PET scan, ce que l'on n'a pas à Nouméa. Mon médecin m'envoie à Sydney passer un PET scan pour savoir où se développe mon cancer. Et là, on remarque que j'ai des métastases osseuses. En 2018, j'étais déjà venu passer un PET scan. On avait vu qu'il y avait des métastases dans les poumons.
Oui.
Et en 2019, ça a encore évolué, c'est parti également dans les os. Le PET scan, c'est 4 jours entre le moment que je pars de Nouméa et que je rentre à Nouméa.
Oui.
C'est 4 jours. Donc quand je rentre à Nouméa, je vois mon oncologue. Et le docteur Emmett, qui est la spécialiste de la radiologie du PET scan au Saint-Vincent Hospital, conclut, dans ses conclusions, dit, j'ai un test clinique que l'on fait en ce moment en Australie, à Sydney.
Oui.
Je suis la référente de ce test clinique et M. Lefebvre est un très bon candidat à ce test clinique. Est-ce que vous voulez qu'il y participe? Ça, c'est en septembre 2019. Et tout de suite, j'ai dit oui avec mon oncologue. Mon oncologue, lui, ne savait pas de quoi en parler, moi non plus d'ailleurs. Mais parce qu'en France, ça n'existe pas. Il écrit à Villejuif, au grand centre cancéreux de Paris, Villejuif, qui dit, écoutez, on en a entendu parler, mais on ne sait pas. Faites-le quand même. La France dit, faites-le quand même. Et moi, j'avais déjà dit à mon docteur, à mon oncologue, j'ai dit, moi, je veux le faire. À Nouméa, la médecine australienne est très, très cotée, a une très, très bonne publicité.
Oui.
Vous voyez? Et nous avons très confiance en la médecine australienne.
Et quand ils vous ont proposé ce traitement, comment est-ce que vous vous sentiez physiquement? Quel était votre état général?
J'étais très essoufflé. J'étais très essoufflé, j'étais fatigué, j'étais très diminué. Vous voyez?
Oui. Et ce traitement, donc, vous le suivez depuis 2019, ça s'est amélioré.
Hein?
Oui.
Donc, en septembre, je viens faire mon PET scan. En septembre, je dis oui pour faire partie de ce test clinique. Et j'arrive à Sydney le 3 octobre, donc tout de suite après. Oui. Et on commence la première injection de ce produit, de ce nouveau procédé.
Oui.
Et tout de suite, ça va mieux. Tout de suite, ça va mieux.
Après la première injection, donc la première prise.
Oui. Après la première injection, ça c'était vers le 8 ou 10 octobre 2019, et tout de suite ça va mieux.
Wow.
Je sens que je suis moins essoufflé, je suis un petit peu fatigué parce que quand même la radioactivité c'est quand même fort.
C'est violent, c'est violent.
Mais je sens que je respire mieux, je respire mieux, c'est ça vraiment qui est important, je respire mieux. Et j'ai les injections toutes les 6 semaines, donc entre-temps je rentre à Nouméa et je reviens 6 semaines après, et ainsi de suite, jusqu'au mois de mars 2020.
Avec la pandémie.
Avec la pandémie, où là je ne peux plus venir à cause du Covid-19.
Et comment est-ce que vous avez fait quand l'interdiction de voyager a été mise en place? Parce que...
Le professeur Emmett nous a conseillé à mon médecin de donner des médicaments. J'ai un médicament, le Xtandi, j'ai un médicament à prendre tous les jours, qui est la continuité du traitement que j'avais par injection.
Donc en comprimé.
Donc en comprimé.
Et ça marche ou c'est quelque chose...
Ça a marché pendant quelques temps.
Oui.
Ça ça a marché pendant quelques temps, et puis au mois de septembre 2020, mon PSA a recommencé, est reparti, a commencé à remonter. Là, on est rentré en contact avec le docteur Emmett pour voir ce que je pouvais faire, si je pouvais venir à Sydney pour continuer, parce qu'il me manquait 2 cures, j'en avais fait que 4 sur 6. J'avais dû arrêter à cause du Covid. Et donc, on est rentré en contact avec mon professeur. Mon oncologue est rentré en contact avec le professeur Emmett, voir si je pouvais venir à Sydney pour continuer, parce qu'il voulait absolument que j'ai les 2 autres injections. Et donc, je suis arrivé à Sydney le 6 février 2021. Et depuis le 6 février 2021, j'ai eu 3 nouvelles injections.
Est-ce que ces injections ont des effets secondaires?
Très peu. Très peu.
Et quels
Elles
sont
sont
ces effets?
Un petit peu de nausée, un peu de fatigue, qui est normal pendant une dizaine de jours, un peu fatigué. Ensuite, on reprend comment. Après, plus ça va, et puis plus ça s'étend, quoi. Hein. Et ensuite, l'injection, la suivante arrive, et puis ça recommence, quoi. Voilà. Mais c'est très supportable, c'est très facile, ça n'a rien à voir avec la chimiothérapie. C'est révolutionnaire, on a très peu d'effets secondaires, on peut continuer à vivre normalement, on fait ce que l'on a envie de faire, il n'y a pas de contraintes, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose.
Parce que des gens qui sont sur chimio, ils sont...
La chimio, ça vous... La chimio, ça attaque non seulement les métastases, mais ça attaque les cellules qui ne le sont pas dans votre immunothérapie et votre système immunitaire.
Ouais,
votre système immunitaire, il ramasse un bon coup, c'est très difficile. Vous avez des effets secondaires, les vomissements, la fatigue, vous êtes plus vous-même. Vous pouvez pas sortir comme vous voulez. Comme on attaque vos systèmes immunitaires, vous avez toujours froid, vous pouvez pas aller au soleil. Enfin, c'est compliqué là. C'est surtout l'état général de la chimiothérapie qui est désagréable.
Et avec ce nouveau traitement, est-ce que ça a cessé de se développer, de se répandre, de se métastaser dans votre corps et au niveau des os, ça a attaqué toutes ces cellules cancéreuses ou c'est progressif?
La radioactivité, ça ne tue pas les cellules cancéreuses.
Oui.
Ça ne tue pas les métastases, ça les affaiblit, comme si ça les endormissait, comme si ça les endort. Ça ne les tue pas, mais ça les endort. Et on peut contrôler ça. On peut contrôler assez facilement. C'est le gros avantage. Le gros avantage, c'est que normalement, pendant le traitement et après, ça empêche les métastases de se développer normalement, de continuer de progresser. Dans mon cas, on ne parle pas de rémission. On parle de poursuivre la vie. On parle d'essayer d'aller le plus loin possible. On ne parle pas de rémission dans mon cas. Moi, j'ai très peu de chances d'être en rémission un jour. On essaye simplement de prolonger la vie le mieux possible.
Oui.
Le mieux possible.
Et sans ce traitement, quel était le pronostic?
Je crois que sans ce traitement, je serais peut-être mort déjà. Je serais peut-être mort. L'année dernière, en 2019, on n'avait plus de traitement pour moi en France. J'avais que des tests cliniques à essayer à partir à Paris et puis à essayer d'intégrer un test clinique qui puisse peut-être me faire de l'effet. On ne sait pas. J'avais plus rien pour moi. Aujourd'hui, je sais qu'à Sydney, j'ai de l'espoir. Et ça, c'est inestimable. Inestimable.
Oui. Non, je comprends. Combien ça doit, en tout cas, vous faire plaisir d'avoir pu participer à cette expérience et qui est une réussite.
Et puis pour nous, l'avantage, c'est que Sydney, c'est à 3 heures d'avion de la maison. Je fais venir mes enfants quand je veux, je fais venir ma famille quand je veux. C'est vite fait. Ils peuvent venir sur un week-end prolongé, 3-4 jours, ils viennent, on passe un moment ensemble, ils repartent, vous voyez. Après, s'il faut partir sur la France, c'est 24 heures d'avion à l'aller, 24 heures au retour, le décalage horaire, le coût que ça coûte.
Oui.
Le logement, enfin, c'est compliqué, quoi.
C'est extrêmement cher.
On a vraiment de la chance d'avoir à côté de chez nous l'Australie et ses compétences. pour nous soigner, pour nous soigner. Vraiment, on a cette chance. Et on a encore plus la chance, c'est que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ait mis en place toutes ces structures pour nous accueillir, pour nous faciliter la vie à nous malades. À nous malades. Parce que là aussi, il faudrait peut-être que les médias calédoniens se penchent là-dessus et qu'ils fassent un reportage, parce que c'est vraiment quelque chose de...
Non, je sais qu'il y a une structure d'accueil, et il y a des motels qui sont spécialisés, transport et tout ça. Il y a toute une infrastructure qui a été mise en place. Hein.
Oui.
Vous avez dit il n'y avait plus d'autres possibilités.
Non, moi, j'avais plus rien. Moi, j'avais que des tests cliniques à essayer d'intégrer pour voir quel était le résultat. Quoi. Mais,
Monsieur Bernard Lefers, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler, de nous porter ce témoignage sur un traitement réussi.
Oui, réussi. Okay. Un traitement efficace, réussi, facile, peu d'effets secondaires, vraiment très peu. Et je vous dis, moi j'arrive à pied le matin à l'hôpital. J'ai ma prise de mon injection et 3 heures après je rentre à la maison à pied. Je rentre à l'appartement à pied. C'est inestimable, quoi.
On vient d'écouter le dernier morceau de la béninoise Angélique Kidjo. Elle chante sur ce morceau qui s'appelle Dignity avec la chanteuse Yemi Alade. Pour la dernière partie de notre émission, on va s'entretenir avec Johan Lequien de l'Union des Français de l'étranger. Il organise le 20 juin prochain la première déclinaison australienne de la fête de la musique. Ça se passera à Sydney et plus précisément à Manly. Bonjour, aujourd'hui on est avec Johan Lequien de l'Union des Français de l'étranger à Sydney. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors 2021, ça va être le 40e anniversaire de la fête de la musique, inventée en France par Jack Lang en 1981. Ça a été repris par beaucoup de villes à travers le monde, mais pas en Australie, en tout cas pas à Sydney, mais vous avez décidé d'y remédier.
Oui, tout à fait. En fait, avec l'Union des Français à l'étranger, il y a 2 ans, on avait déjà ce projet dans les tablettes. Et on s'était dit que ça pouvait être vraiment une bonne idée de rassembler un peu tous les Français sur un événement populaire qui est connu de tous. Parce que clairement, je pense qu'après le 14 juillet, c'est l'une des dates clés au niveau du calendrier festival de l'année. Et on s'était dit pourquoi pas le lancer sur Ciné ou tout du moins dans le New South Wales, pour pouvoir rassembler un maximum de Français autour d'un bel événement culturel.
Ok, et alors concrètement, ça va se passer comment? Comme dans les rues des villes françaises, des gens qui vont descendre spontanément avec leurs instruments, ou à quoi on peut s'attendre?
Alors du coup, comme Covid est passé par là, on a essayé de structurer l'événement au maximum. Donc ça va être organisé le dimanche 20 juin, donc la veille du 21 qui tombe un lundi cette année dans le calendrier. Et on a sélectionné un site situé à Manly qui s'appelle le Saint Paul College, qui est situé juste en face de l'ICMS, pour ceux qui connaissent bien la belle structure type cathédrale historique. Donc du coup, c'est un très bel espace et bel environnement, parce que on bénéficie non seulement d'un beau site avec un beau patrimoine, et aussi un bel espace vert. Il y a beaucoup, il y a plusieurs hectares en fait qui sont mis à disposition pour tous les musiciens. Et ce qu'on a effectué, c'est on a lancé en fait un appel à candidature, de façon à ce que tous les différents groupes, notamment en priorité ceux de la communauté française, puissent jouer et s'installer sur différents créneaux horaires. Et comme en général les musiciens ne jouent pas pendant toute une journée, Ça leur convient très bien de faire différents moments de 30 minutes ou une heure, par exemple. Donc, du coup, c'est assez rythmé, c'est assez espacé. Et on va organiser 4 grands espaces, en fait, à l'intérieur du St. Paul's College. Et de façon à avoir aussi beaucoup de styles de musique différents. Ça va notamment de la samba jusqu'au French jazz, en passant par des chanteurs qui vont chanter des classiques français type Aznavour, Edith Piaf, etc. Donc c'est un bel événement qui se prépare.
Et du coup, c'est gratuit. Est-ce qu'il faut réserver son billet à l'avance? Comment ça fonctionne concrètement?
Donc, événement totalement gratuit. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a lancé l'événement sur Eventbrite de façon à ce que les gens puissent s'enregistrer. C'est surtout pour être Covid compliant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis en termes de traçabilité. Puis d'ailleurs, on va mettre aussi un QR code à l'entrée. Donc, événement totalement gratuit. Et en termes d'animation, au-delà aussi de l'aspect musique, on a créé un partenariat avec The French Counter, avec Guillaume Roux, qui va nous faciliter en fait l'aménagement d'espaces pour des artisans, puis tout ce qui est gastronomie française, notamment avec ce qu'on peut retrouver habituellement sur les French Markets, de façon à ce qu'on ait entre 10 et 15 stands côté nourriture et aussi boissons. Donc ça sera vraiment un genre de mini festival fête de la musique sur un seul et même endroit, en fait.
Ok, et donc c'est prévu sur Manly le dimanche 20 juin.
Voilà, c'est ça, dimanche 20 juin. Au niveau créneau horaire, on a prévu ça de 9h à 16h, de façon à ce qu'on ait une belle plage horaire, parce qu'en général, les gens aiment bien sortir le dimanche, et on s'attend à avoir notamment beaucoup de monde sur la partie midi 14h, mais dès 9h, on a déjà des groupes qui vont commencer à jouer. Donc clairement, en fonction des calendriers de chacun, venez à l'horaire qui vous convient. On sera là toute la journée et du coup je pense qu'il y aura une très bonne ambiance, très bonne humeur avec toute la communauté française, mais pas seulement, parce qu'on va essayer ouvrir l'événement plus largement. On va faire aussi un petit peu de communication au niveau des communautés locales Northern Beaches australiennes, de façon à ce qu'on puisse avoir un maximum de jours de monde, et ça sera aussi l'occasion de faire la promotion d'un bel événement et de la culture française au passage.
Ok, on a pris date, en tout cas c'est noté, merci beaucoup.
Merci beaucoup Grégory.
Et une petite précision avant de terminer notre émission concernant donc les élections consulaires pour la communauté française en Australie et le vote à l'urne qui a lieu demain. Pour ceux qui se trouvent dans le Victoria actuellement confinés, sachez que si vous êtes inscrit sur les registres du consulat de France à Sydney, vous avez normalement reçu une dérogation signée par la consul de France vous permettant de vous déplacer pour aller voter à Melbourne, et ce malgré le confinement. Voilà, c'est la précision qu'on voulait apporter. Les bureaux de vote sont donc ouverts demain dans toute l'Australie de 8h à 18h. SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau du groupe Catastrophe qui s'intitule « Maintenant ou jamais ». Nous, on se retrouve dès demain, dimanche, à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Elle sera présentée par Jean-Noël Ducasse. Et puis, vous pouvez aussi écouter toutes nos interviews et reportages quand vous voulez, en podcast, en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur toutes les plateformes de streaming. Ou mieux encore, vous pouvez aussi télécharger notre application SBS Radio. Passez à tous un excellent week-end et à très bientôt.
Ni fin, ni passé, ni futur. Une suite de dernières fois qui s'enchaînent, et que toute notre vie maintenant ça allait être ça, des dernières fois qui se suivent, des instants qui naissent et qui meurent dans la même seconde, comme des deuils qui dansent. Alors j'ai fermé les yeux dans cette boîte de nuit, et sous la lumière je me suis remise à danser.
Aimez, partagez, commentez, suivez-nous sur Facebook.com/SBS French.